Oui, bonjour Vincent, c'est Paul de Radio Syllab. Oui, je vous dérange pas. Ouais, c'est ça, c'était ouvert. Je sais pas où il faut que j'aille, du coup je reste devant. Ok, avec la petite voiture rouge. Ok, super, à tout de suite.
Je m'appelle Vincent Grison, j'ai 33 ans, je suis rennais. Je suis de formation architecte naval. J'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans comme architecte naval, en même temps d'être skipper et en course à la voile. Donc là, je faisais de la course au large en solitaire jusqu'en 2015. Et ensuite, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pendant voilà, jusqu'à 2020. Et encore maintenant, je travaille de temps en temps pour Médecins sans frontières comme logisticien et puis comme coordinateur de projet, plutôt dans des zones d'urgence à l'étranger.
Bonjour. Très bien, et vous? Enchanté, du coup.
Bienvenue à la base nautique de Rennes. C'est l'ancienne briqueterie de la ville de Rennes.
Okay. Je crois
qu'ils ont arrêté la production dans les années 60. Et depuis, et ben, je crois que au début c'était la SNSM qui a récupéré ce truc-là. Et maintenant
okay.
C'est la ville de Rennes qui est propriétaire des lieux et c'est les associations de la ville qui l'utilisent, quoi. Et ben, on va faire le tour comme ça, je te montre l'ensemble du truc.
Ouais, bah nickel.
Donc en 2015, je finis une course en solitaire à travers l'Atlantique et voilà, c'était une telle expérience que j'avais envie de continuer et de comment dire, construire une nouvelle aventure ambitieuse, on va dire. Et donc à partir de ce moment-là, eh ben, on se met en recherche d'un projet qui soit un petit peu en adéquation avec ses idées et aussi ses compétences, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis dit, bon allez. Programme éducatif à l'environnement, qu'est-ce que je sais faire, naviguer, monter des projets. Et donc petit à petit, bah, je me suis dit, je vais construire un projet à partir de Rennes pour aller au pôle Nord et faire tout ça avec des enfants de la ville de Rennes.
En mars 2021, Vincent Grison partira en expédition. Tout seul et sans assistance, il rejoindra le pôle Nord depuis Rennes. Une aventure de 8 mois et 13 000 km à vélo, en bateau et en traîneau pour parler du réchauffement climatique.
Bah, j'ai pas choisi le pôle Nord par intérêt personnel, bien que ça m'attire. Ce qui m'a attiré avec le pôle Nord, c'était son intérêt vis-à-vis du programme éducatif que j'avais envie de monter que j'avais envie de monter à Rennes. Hein. Et ensuite, voilà, j'étais à la recherche d'un lieu où la problématique environnementale pouvait être intéressante à aborder avec des enfants et qu'elle ait une symbolique forte. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le pôle Nord, ah, que le pôle Nord pouvait être une destination intéressante.
Il y a quand même un peu de gens à venir parce que j'ai vu les camions de la ville tout à l'heure. Mais...
Ouais, bah là c'est l'hiver donc,
ouais.
Donc là on est à l'intérieur, là on est deux à bosser sur les bateaux.
Ok.
Généralement ça entre 2 et 5 personnes à bosser en hiver. L'été il y a quand même plus de monde. En fait, t'as Marcel, c'est un bateau qui sera bientôt classé monument historique.
Ah mais c'est pas un bateau qui est parti dans l'Arctique ça?
Pardon?
Le petit rouge?
Ouais. C'est un bateau qui avait été construit par un ingénieur un peu fou.
Ouais.
Un grand voyageur, tout construit en inox.
À la base du coup tu le disais juste avant, t'es architecte naval, t'es aussi navigateur, travailleur humanitaire, donc on sent que sur ton CV qu'il y avait une envie d'aventure quand même.
Ouais.
De voyage et de découverte. Mais parmi toutes ces casquettes, j'imagine qu'il y en a peut-être une ou qui est plus utile que les autres pour ce genre de projet, peut-être navigateur, mais même architecte au final.
Ouais, je pense que ce qui me sert le plus là, c'est mon militantisme, on va dire. C'est-à-dire que sur un projet comme ça, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et donner beaucoup beaucoup d'énergie pour l'atteindre. Et bah moi, c'est mon envie de voir les choses changer, de partager quelque chose avec voilà des enfants notamment qui m'intéressent. Donc c'est vraiment ça qui me bouge. Après les compétences techniques, elles sont nécessaires. Et j'ai la chance d'en avoir quelques-unes pour ce projet-là, mais c'est vraiment pas une contrainte, quoi.
Ah, c'est vrai que l'endroit est chouette. Toujours passé devant, mais j'ai jamais fait gaffe.
Ouais.
Quand tu rentres devant, c'est vrai que c'est...
Au début, on croit qu'on va partir assez rapidement. On se dit, en un an, on va réussir à tout boucler pour pouvoir partir. En fait, c'est une quantité de travail qui est monstre. la plus, enfin, ce qui prend le plus de temps, c'est de convaincre les gens et de se faire un environnement sain et qui fait qu'on va arriver au bout du projet autour de soi, quoi. Avoir des bons partenaires, avoir des amis qui supportent le projet, des... Donc ça, c'est un projet associatif, hein, donc des gens qui font partie de l'association, qui sont prêts à aider. Ça, c'est aussi très important. Et puis la recherche de financement, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, hein. Là, on a quasiment bouclé le financement. Et donc c'est comme ça qu'on se dit, OK, on peut partir, quoi. Mais c'est illusoire de se dire, en un an, je vais réussir à la fois convaincre des gens et faire en sorte que leur argent arrive dans le projet.
On va trouver de la place. Et en fait, on est trop, trop bien accueilli.
Ouais.
La suite du bâtiment qui est devant.
Ok.
Donc, en plus, l'atelier de bureau, t'as un atelier de voilerie, t'as un petit atelier de métal.
Pour se préparer sur une expédition comme ça, il y a beaucoup de préparation. Il y a de la préparation physique, c'est obligatoire. Maintenant, souvent, elle passe un petit peu en deuxième, voire troisième plan quand il faut trouver de l'argent, construire un bateau, aller voir des enfants. Et donc, il faut vraiment s'assurer que dans le total de cette préparation, on arrive à faire un petit peu de physique aussi. Parce que voilà, c'est dommage de partir si on n'est pas capable de faire 20 km. donc là, c'est maintenant, en ce moment, c'est vraiment le grand travail. Là, j'ai encore un petit peu de temps pour préparer le physique. Maintenant que tous les facteurs limitants ont été exclus. Et après, il y a d'autres entraînements un peu bizarres, comme pas apprendre à tirer la carabine. Enfin, c'est même pas apprendre, hein, c'est avoir un permis pour porter une arme, parce que c'est obligatoire sur un archipel d'îles que je vais traverser. Voilà, le gouvernement oblige les voyageurs à porter une arme. Donc, il fallait que je passe ce permis-là. Et il y en a d'autres, hein, il faut tirer des pneus dans la forêt, faut faire des kilomètres et des kilomètres de vélo. Une des prochaines bizarreries que j'ai envie de faire, c'est me mettre dans une carrière inondée avec ma combinaison et voir combien de temps je peux rester dans l'eau avant de frôler l'hypothermie.
Ah ouais, c'est vrai que c'est...
C'est lui qui fait de la guitare, il s'est mis au chaud, il y a des caisses chauffées là-bas.
En même temps, ça risque de faire froid là-dedans au bout d'un moment.
Ouais, au bout d'un moment, t'en as un peu... Et voilà la bête. Donc tu vois qu'elle a été construite de A à Z ici, quoi.
C'est ça le carbone, du coup, ce qui est en dessous?
Alors non, le carbone, on le voit pas, il est sous le bleu, sous le jaune.
Ok.
Ici, c'est deux fibres qui s'appellent, c'est de la fibre de basalte et de la fibre de polyéthylène.
Alors comme Jean-Louis Etienne en 86, tu pars seul et sans assistance vers le pôle Nord. C'est pas ta première aventure au solo, t'as notamment fait plusieurs transats en solitaire. Cette fois-ci, le défi il est tout autre. Est-ce que t'as une petite appréhension, des peurs ou des inquiétudes qui pourraient concerner l'expédition?
Alors tu citais Jean-Louis Etienne, qui est quand même un peu un exemple de l'aventure comme elle peut se faire en France notamment, et qui est vraiment très très inspirant. Enfin, moi, elle m'a inspiré, même si voilà, c'est 86, c'était il y a maintenant 35 ans, donc l'exploration et l'aventure n'a plus rien à voir avec tout ça, mais quand même il a insufflé beaucoup de choses, notamment à des personnes comme moi. Et donc avant d'y arriver, à atteindre le pôle Nord seul, il a eu un échec, Jean-Louis Etienne, parce que il se faisait toute une idée de l'aventure qu'il allait aborder, que en fait ça ne correspondait pas à la réalité. Donc moi, c'est la première fois que je vais là-bas, et je sais que je vais aussi avoir ce souci-là, quoi. J'habite à Rennes, j'ai grandi plutôt en Europe. Se confronter à la réalité du terrain, ça va être un exercice qui sera forcément un peu frustrant, mais aussi très intéressant, et aussi à partager, en fait, parce que l'objectif, c'est pas d'atteindre la banquise, mais c'est surtout de partager cette expérience. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Après, les craintes, il y en a souvent, hein, des appréhensions qui sont tant liées à la réussite de projet, à la satisfaction des différents partenaires, à être sûr que le projet est bien compris. Après, il y a des choses beaucoup plus personnelles. Voilà, est-ce que je vais réussir à tenir le coup physiquement, mentalement? Il y a d'autres peurs qui sont... moi, je sais que j'ai un peu peur de l'ours polaire parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Mais ça, c'est vraiment des choses qui évoluent en permanence. À chaque fois qu'il y a une peur, il faut travailler dessus et faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Sinon, rapidement, on n'arrive plus à dormir. Bah, si une fois arrivé au Spitzberg, j'ai encore trop peur des ours polaires, ouais, je prendrais peut-être un chien avec moi. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses hein, qu'on peut faire pour faire en sorte que les ours polaires ne soient pas agressifs envers l'homme. Et c'est assez rare si on ne prend pas toutes les mesures postérieures.
Ça, je vais récupérer, ça vient. C'est le siège d'un bateau d'aviron.
Okay. Ah ouais, ok.
C'est le siège d'un bateau d'aviron.
Il est
vraiment beau. Ouais, il est trop beau. C'est la seule pièce en bois.
Ouais.
Donc, tu vois, quand pour provoquer la chance, on dit touche du bois.
Ouais, c'est ça.
Je le toucherai avec mes fesses.
C'est cool.
J'imagine qu'il y a. Que même si beaucoup de facteurs risques sont étudiés à l'avance et préparés à l'avance, il y a certains que tu ne peux pas prévoir et c'est l'expérience qui parle dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a des compétences, des qualités nécessaires pour faire ce genre d'expédition ?
Bah, je pense qu'il faut avoir une bonne notion du risque. Ça, c'est quelque chose de très important. Être capable de le comprendre et de l'accepter et de ne pas hésiter à faire machine arrière, s'arrêter pour réfléchir, prendre de nouvelles options. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, hein, mais qui vient aussi de l'expérience. Quoi.
En fait, souvent, c'est ce qu'on dit, surtout pour l'architecture navale, on dit souvent que t'es un objet qui est travaillé, et sculpté pour faire de la performance pure, il en devient esthétique, quoi.
Okay.
Et je trouve que c'est vraiment ça quoi. Plus tu travailles, plus tu optimises la forme, les couleurs, l'ergonomie, bah, tu tombes sur un objet qui est assez joli quoi.
Bah, c'est vrai qu'il est vraiment profilé quoi.
Ouais.
En plus la couleur est sympa.
Ouais, bah, tu vois,
cette expédition, comme tu l'as présentée, c'est une expédition au service de la planète, avec vaste programme environnemental, centré autour de la sensibilisation, de l'éducation, de la recherche sur le réchauffement climatique. Les trois sont étroitement liés, du moins à la sensibilisation, qui passe par l'éducation forcément et la recherche. J'aimerais revenir sur l'axe de l'éducation, puisque tu ne pars pas vraiment seul, si on peut dire, pendant cette expédition. Il y a plus de 3000 enfants qui suivront tes avancées, tes péripéties, et travailleront sur les thématiques que tu abordes avec ce projet. C'est un programme qui s'échelonne sur 2 ans, bien après ton retour du pôle. Comment ça va se dérouler, cette collaboration avec les écoles et les centres des loisirs ? Elle est déjà commencée, mais...
Alors, cette collaboration, elle a commencé il y a déjà un an, et elle s'étoffe d'un grand nombre de classes. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de groupes d'enfants qui vont vraiment travailler avec moi pendant les 2 prochaines années. Donc, c'est principalement des groupes d'enfants de la ville de Rennes. Donc, classe et centre de loisirs, et surtout aux alentours du CM1, CM2. Et donc ensemble, on va découvrir un petit peu ce que c'est que l'Arctique, et on va découvrir aussi un petit peu l'impact du réchauffement climatique sur cette région, qui est assez simple à comprendre et à voir, puisque... sur la banquise, il n'y a quand même pas grand-chose à part de la glace, et que la glace, sa présence, elle est directement liée à la chaleur de son environnement, donc au réchauffement climatique dans ce cas plus précis. Et on a aussi quelques certitudes qui viennent de la part des scientifiques qui disent que voilà, la banquise, la totalité de la banquise disparaîtra l'été d'ici une dizaine, vingtaine d'années, quoi. Donc ça va créer des bouleversements qui sont déjà visibles et qui vont être visibles de notre vivant et qu'on a encore du mal à comprendre. Et c'est ça qui est intéressant avec la banquise aussi, c'est qu'elle a une symbolique très forte et qu'elle est facilement, on peut la comprendre assez aisément et surtout des enfants. Voilà. Souvent je dis, la terre se réchauffe et automatiquement ça fait diminuer la glace, et moins il y a de glace, moins il y a d'ours polaires. C'est un peu caricatural, mais s'il n'y a plus de glace, s'il n'y a plus d'ours polaires, c'est aussi plein d'autres conséquences qu'on voit un peu moins mais qui sont tout aussi importantes pour l'Arctique, mais aussi pour des régions plus éloignées comme l'Europe et d'une manière générale toute la planète, quoi.
Ouais. Et après tu vas prendre ton bateau.
Okay. Donc l'avantage de ça, c'est que
eh bien, tu l'envoies en l'air, tu règles ton safran et puis il va dans une direction. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux dormir, tu peux faire à manger, ouais. Tu peux avoir une vie, quoi. Contrairement au cerf-volant directionnel où là, il faut que tu sois au pilotage, quoi.
Ouais.
Pour revenir et permettre la liaison entre toi et les écoliers et écolières, il faut absolument une antenne satellite fixée sur ton embarcation afin d'être joignable partout et tout le temps. La même que celle utilisée par les skippers du Vendée Globe. Mais cette antenne, elle a un coût important, 9 000 euros. Et pour l'avoir fixé sur ton embarcation avant le grand départ, vous avez lancé une campagne de financement participatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire où est-ce que ça en est, cette campagne, aujourd'hui ?
Alors, cette campagne, on l'a lancée juste avant l'été, et elle durera jusqu'au 15 février. On peut l'atteindre à travers le site internet du projet, donc sur www.arenepolnord.com, et elle servira à acheter donc cette antenne qui est certes un peu chère, 9 000 euros, mais qui est cruciale pour le projet, puisque en effet elle servira d'intermédiaire entre l'expédition, les enfants du programme, mais aussi voilà, le public d'une manière générale, et aussi mes collaborateurs de la recherche à l'Université Rennes 2 notamment, mais aussi d'autres partenaires techniques.
Du coup, tu pars de la pointe extrême nord de Norvège en kitesurf, c'est ça ?
Ouais.
Enfin, tracté comme un kitesurf.
Tracté par un cerf-volant.
Ok.
Donc là, tu es assis à cet endroit-là.
Ouais.
Autre point central de cette aventure, c'est le fait que ton expédition soit aussi au service des chercheuses et chercheurs, afin de mieux comprendre la vie de la banquise et son évolution. Pour cela, tu travailles notamment avec le laboratoire Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique de Rennes 2. Quel est l'objectif de cette coopération et qu'est-ce que, du coup, vous espérez peut-être découvrir pendant ce périple ?
Alors, cette collaboration, elle dure depuis 2 ans, où on travaille avec des groupes d'étudiants sur la télédétection des glaces. Donc la télédétection, c'est l'analyse d'images radar prises par des satellites. Et grâce à ces images, ça va nous permettre de comprendre l'évolution de la banquise. Voilà, comment bouge la glace, est-elle présente ou n'est-elle pas présente. Et ça, c'est très important de le faire avec un radar, parce que le radar, ça marche même quand il fait noir, donc la nuit, et même quand il fait mauvais. Et donc voilà. Et avec eux, on cherche à caractériser la glace pour plusieurs raisons. La première, c'est pour moi me donner des cartes pour pouvoir progresser, puisque la banquise bouge tout le temps, il n'y a pas de cartes, donc il s'agit de les faire. Il y a une deuxième raison, c'est aussi de donner un outil supplémentaire aux climatologues et aux glaciologues qui pourraient s'intéresser à cette zone de la planète. Et la dernière, ça sera aussi de proposer un outil voilà, à quiconque aura envie de comprendre l'évolution de la banquise. Voilà, ça sera un petit logiciel, enfin ça se présentera sous la forme d'un petit logiciel disponible pour tous. Ce que je vais faire, c'est prendre des images avec un drone à faible altitude et les envoyer à l'équipe à l'Université Rennes 2. Et avec ces images-là, ils vont pouvoir étalonner les imageries satellites qu'ils ont de la part de leur satellite. En fait, je leur sers de référent en fait pour étalonner leurs images.
Pour le dessin et tout ça, tu as à peu près un mois de travail. Juste pour le dessin, pour optimiser tout, préparer tous les envois aux différents fournisseurs et tout ça. La préparation de tes commandes et tout ça, tout le travail en amont. Après, en fabrication, je pense qu'il y en a pour à peu près 3 mois.
Pour cet aller-retour de 13 000 km entre Rennes et le pôle Nord, tu as décidé de voyager grâce aux mobilités douces, donc, c'est-à-dire le vélo, le kitesurf et le ski. Ce ne sont pas des choix anodins. L'idée de ce projet, c'est d'être écologiquement exemplaire. Choisir ce type de mobilité, c'est aussi faire des concessions, j'imagine, sur son propre confort. Et quant aux efforts qu'on va déployer, comment est-ce que se sont faits les choix de ce type de mobilité ? Pourquoi le ski ? Pourquoi le vélo ? Pourquoi le kite ?
Au tout début, il y a voilà, ce souci d'exemplarité. Si je le fais, c'est pas par rapport à moi, ou c'est plus par rapport au discours du projet. Voilà, ça me semblait difficile d'essayer de ne pas être exemplaire quand on doit parler d'environnement. Quoi. Pour moi, quand on parle d'environnement, il ne faut pas voir de points noirs à son tableau. Et ensuite, ben voilà, en prenant cette contrainte-là, on se dit bon, il va falloir ne pas produire de gaz à effet de serre, ne pas utiliser de combustible fossile. Donc automatiquement, ça veut dire mobilité douce. Et donc après, mobilité douce, il en existe plein, mais il s'agit de trouver la plus efficace en fonction du milieu sur lequel on se trouve. Donc à terre, sur la terre ferme, ce qu'il y a de plus efficace pour avancer, eh bien ça reste le vélo. Sur l'eau, voilà, quand il y a du vent, bah, c'est la voile. Quand il n'y a pas de vent, c'est la rame et plutôt l'aviron. Et ensuite, sur la glace ou la neige, bon, ça dépend, soit le ski ou la marche à pied en fonction du terrain.
Et toi, ça, c'est des locaux de la ville de Rennes. Okay. C'est un ancien bunker nazi, ça.
Il en fallait un.
J'imagine que si, avec les plus de 3000 élèves qui vont te suivre, peut-être qu'il y en a certains, ça va attiser leur curiosité ou leur appétit pour l'aventure, l'exploration. Et...
Ouais, alors c'est pareil, eux, leur destin leur appartient, mais c'est sûr que en leur montrant ça, en leur donnant des idées déjà tout petits, ça peut leur donner plus de possibilités plus tard et aussi peut-être un peu moins de complexe pour avoir de grandes ambitions pour la planète, quoi. Quand j'étais petit, j'ai grandi à Rennes et j'avais rencontré comme ça Isabelle Autissier quand j'avais en CM1, CM2, même si je m'en souviens pas du tout de ce qu'elle a pu me raconter. Et donc c'est une grande navigatrice qui est présidente maintenant de WWF France. Et donc elle était venue me voir quand j'étais petit en primaire, et même si je me souviens pas du tout de ce qu'elle m'a raconté, je sais que je l'ai vue et c'est devenu quelqu'un que j'ai écouté et qui m'a au final un petit peu sensibilisé à la mer, à l'environnement. Voilà, donc c'était. Je me dis, si j'arrive à faire juste véhiculer ce genre d'idée, ça serait déjà une bonne chose.